Aujourd'hui, dans l'émission Vie consacrée, nous recevons Don Préau et un séminariste François Rennes pour parler de la communauté Saint-Martin. Bonjour à tous deux.
Bonjour Romain, bonjour. Bonjour.
Alors, nous allons commencer avec Don Paul Préau pour découvrir donc la communauté Saint-Martin. Depuis combien de temps existe votre communauté et qui était son fondateur ?
La communauté est née en 1976, donc nous sommes dans notre 42e année. Et le fondateur de la communauté est l'abbé Jean-François Guérin, qui est originaire de Tours, du diocèse de Tours.
D'accord. Est-ce qu'il est toujours en vie ou...
Non, l'abbé Jean-François Guérin est décédé en 2005.
D'accord. Donc c'est un prêtre
qui a été ordonné en 1955.
C'est relativement récent finalement son départ.
Oui, c'est vrai. Ça fait un peu plus de 10 ans. Tout à fait. Donc nous sommes encore imprégnés de sa présence ici, dans la communauté. Et tout le travail que j'ai actuellement, c'est à la fois de recueillir l'héritage de cet homme, qui fut un formateur de prêtres essentiellement, et essayer bien de le transmettre aux jeunes qui se présentent pour la formation en vue du sacerdoce.
D'accord. Alors justement, on va peut-être passer directement à la question sur la caractéristique propre de votre communauté. Je crois que c'est une communauté essentiellement donc de prêtres et de diacres au service des diocèses. C'est bien ça ?
Tout à fait. Nous sommes une association de prêtres, une association, dans le droit canonique, on appelle ça une association publique cléricale, c'est-à-dire un groupe de prêtres dont le charisme est de pouvoir être envoyé dans tous les diocèses, au service des diocèses, sous la houlette, bien sûr, des évêques. Mais nous vivons le ministère toujours en communauté, en petite fraternité. Nous ne sommes jamais, ou exceptionnellement, mais jamais seuls, mais toujours en petite communauté de prêtres et de diacres.
Alors justement, où êtes-vous implanté ? Est-ce vous avez plusieurs implantations ou est-ce que vous êtes à un seul endroit ?
Alors nous sommes implantés actuellement nous sommes dans pratiquement 21 diocèses en France et à l'étranger.
D'accord.
Essentiellement en France, puisque nous avons aussi une communauté à Cuba et une communauté en Italie, dans le diocèse de Gênes. Et une petite communauté aussi à Rome. Mais la plupart de nos communautés sont quand même dans les diocèses français actuellement.
Alors, nos auditeurs connaissent un de ces lieux où vous êtes implanté, le sanctuaire Notre-Dame de Montlijon. Nous avons d'ailleurs, nous serons en union de prière à 18h15 avec le sanctuaire pour la prière pour les défunts.
Ah, très beau, d'accord. Moi j'étais 15 ans dans ce sanctuaire, donc je suis très heureux d'être en communion avec le sanctuaire de Montlijon.
Alors, donc, vous êtes implanté à différents endroits. Vous êtes combien de membres de la communauté Saint-Martin au total ?
Oui, actuellement, nous sommes 100 prêtres, un peu plus de 100 prêtres, prêtres et diacres permanents, parce que nous avons 4 diacres permanents, qui sont célibataires, bien sûr, et nous avons 120 séminaristes. Donc des jeunes qui se forment à Évron, en Mayenne, on a une maison de formation, et qui sont répartis sur les deux cycles de formation.
Et il y a également, si je ne me trompe pas, un évêque qui est issu de votre communauté.
Oui, nous avons actuellement alors même plusieurs. Nous
plusieurs.
Avons un évêque qui est à Bayonne, et un autre qui est en ce moment au Guatemala, qui est nonce apostolique au Guatemala.
D'accord.
Ils sont tous les deux issus de la communauté Saint-Martin.
Alors je pensais effectivement à Monseigneur Marc Hayet, que nos auditeurs qui habitent dans le diocèse de Fréjus-Toulon connaissent également, car il a été vicaire général de Monseigneur Hayet.
Tout à fait, tout à fait. Et lui-même a été responsable de notre maison de formation, mais il y a déjà quelques années de cela, quand on était encore à Blois.
Alors, est-ce qu'il y a peut-être, donc, par rapport à votre fondateur, une phrase ou une devise qui caractéristique justement de vos actions ?
Plusieurs. plusieurs, que je pourrais synthétiser. Alors, la première qui est un peu notre emblème, si vous voulez, puisqu'elle est puisée à la source, ce qui est Saint-Martin, ce serait charité. En latin, ça donne charitas, caritas, et qui est un petit peu notre devise. En tant que ministre ordonné, nous essayons de vivre cette charité du bon pasteur, charité pastorale, pour le service des âmes, le service des personnes qui nous sont confiées. Il y en a une autre qui me marque beaucoup chez notre fondateur. C'est notre fondateur était aussi un contemplatif d'une certaine façon, et il disait « Tout le mystère de Dieu, tout le mystère de la Trinité, c'est comme rendu présent dans le mystère du Christ. Et tout le mystère du Christ est contenu dans le mystère de l'Eucharistie. » Et enfin, une qui va vous faire peut-être plus sourire, c'est « Prendre Dieu au sérieux, mais sans se prendre au sérieux. » C'est un peu une note de la communauté, c'est-à-dire qu'à la fois, dans la liturgie, essayer d'être vraiment dans la vie intérieure, dans une certaine, un sérieux, puisqu'on veut servir le Seigneur, et en même temps, dans la vie quotidienne, ne pas se prendre au sérieux, c'est-à-dire pratiquer l'humour, la joie de vivre,
et puis,
l'espérance, quoi.
Vous avez prononcé le mot de charité. C'est vrai que je pense que le nom de votre communauté fait référence à Saint-Martin qui a coupé son manteau en deux pour le donner à un pauvre.
D'accord. Ben oui, Saint-Martin qui a vécu cette charité alors qu'il n'était pas encore baptisé, il était catéchumène à Amiens. Puis il y a la grande charité pastorale de Martin quand il était l'évêque de Tours. Et puis enfin, il y a la charité fraternelle de Martin quand il était à Candes au moment de sa mort. Il va aller visiter ses frères alors qu'il est déjà âgé. Ses frères vivant une dissension entre eux, une petite division fraternelle. Et il va aller là-bas comme un artisan de paix et d'unité.
Est-ce que, si on vous croise dans la rue, est-ce qu'il y a des signes distinctifs qui permettent de vous reconnaître par rapport à d'autres communautés ?
Alors nous portons comme habit, qui est un habit de communauté, la soutane. Nous sommes en soutane noire, sauf à Cuba où ils sont en soutane blanche à cause du climat. Et nous portons autour des reins une ceinture qui est nouée, et non pas la ceinture romaine, vous savez, qui est agrafée. Donc nous, c'est plutôt une ceinture qui est nouée dans le dos. Alors voilà, ça c'est un signe de notre appartenance. Sinon, j'espère que c'est la joie. Alors, je ne sais pas si ça se voit dans la rue, mais j'espère que ça se voit.
Oh, mais je, en tout cas, je l'entends à votre sourire pour cette émission, en tout cas.
Bon, c'est bien.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos journées ? Alors, j'imagine que ça dépend du lieu où vous êtes implanté, si vous êtes en paroisse ou au centre de formation.
Exactement. En général, si vous voulez, nos journées commencent par la prière. Le matin, quand on se lève, après le temps de la toilette, on descend à la chapelle pour un temps de lectio divina, un temps de méditation de la parole de Dieu du jour, c'est celle que nous propose la liturgie. Après, il y a un temps de prière en oraison, de solitude, mais on est ensemble, dans la chapelle ou dans l'oratoire. Puis après, il y a les lodes en commun. Vous voyez, comme nous avons une vie communautaire, ça définit le charisme de la communauté, nous avons aussi une prière en commun. On ne partage pas que la table et que la mission pastorale, mais nous partageons aussi la vie de prière. C'est très important, parce que nous croyons beaucoup à cette unité des prêtres à travers une prière communautaire. Ensuite, il y a... si vous êtes en mission, bien sûr, là, on est disponible aux fidèles. Donc, il y a toutes les différentes missions qui existent sur le territoire. Hein. Donc, il y a les paroisses, il y a l'aumônerie des jeunes, il y a les hôpitaux. On est vraiment dans la mission. Et en général, après, pour le déjeuner, on se retrouve pour un temps de déjeuner communautaire. Et le soir, nous avons de nouveau l'office en commun qui est les vêpres. Puis après, bien sûr, les réunions du soir, les rendez-vous pour la préparation au mariage, le baptême. On est vraiment des prêtres de paroisse, si vous voulez. Hein. La plupart de nos ministères que les évêques nous confient, ce sont plutôt des paroisses, donc on est prêtres de paroisse. À la maison de formation, ça ressemble un peu, sauf que la différence, c'est que au lieu d'être le champ pastoral, c'est plutôt les études. Donc là, ils consacrent beaucoup de temps. Alors ils ont des cours le matin, et puis l'après-midi, normalement, ils travaillent. Je dis normalement avec un petit sourire. Vous ne le voyez pas parce que ce n'est qu'à la radio, mais j'aimerais bien qu'ils travaillent bien l'après-midi. Parce que comme j'ai un séminariste à côté de moi qui va vous parler tout à l'heure, il sourit aussi.
Je pense que ça lui était donc adressé ainsi qu'à ses frères séminaristes.
Voilà.
Et j'imagine que les temps liturgiques importants pour votre communauté, ce sont ceux de tout chrétien, Pâques, Noël, etc. Mais est-ce qu'il y a peut-être des fêtes particulières dans l'année liturgique ?
Alors, une fête à laquelle nous tenons beaucoup à cause de notre saint patron, le patron céleste, qui est saint Martin, c'est bien sûr le 11 novembre, qui au-delà de l'armistice, est aussi pour nous une fête très importante. C'est la fête où on célèbre la charité de Saint-Martin particulièrement. Donc tous les frères de la communauté sont très touchés par cette fête. Mais vous voyez, l'accentuation liturgique et en particulier l'année liturgique a été un des traits caractéristiques de la transmission, je dirais, spirituelle dont nous héritons de notre fondateur. Il nous a beaucoup formés à une vie spirituelle qui soit ancré dans la liturgie. Ça ne remet pas en cause la dévotion, mais la dévotion est seconde. Ce qui est premier pour nous, c'est une spiritualité liturgique. Et de cette spiritualité liturgique va être intégrée toute la dévotion aux saints, par exemple la fête de la Toussaint, la fête de Saint-Joseph, bien évidemment les fêtes mariales, etc., etc. Vous voyez ? Donc toutes les dévotions sont comme tournées vers la vie liturgique, et la vie liturgique elle-même est tournée vers ce qui est son sommet et son centre, l'Eucharistie.
Alors peut-être une dernière question pour vous. Je vois que la communauté Saint-Martin est une communauté de droit pontifical. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ça veut dire que en tant que responsable de la communauté, je dois rendre compte, non pas à un évêque, puisque sinon on serait de droit diocésain, mais je dois rendre compte directement à Rome. Donc tous les ans, je vais à Rome et je rends compte de l'évolution de la communauté à un cardinal qui est le préfet de la congrégation pour le clergé. Donc notre communauté est directement rattachée, tant quant à ses membres que quant à la maison de formation, elle est directement rattachée au Saint-Siège et plus particulièrement à la congrégation pour le clergé. Vous voyez, par rapport à d'autres communautés nouvelles aujourd'hui en France, ou même à l'étranger, nous sommes une communauté essentiellement composée de prêtres, de diacres et bien sûr de séminaristes. Nous n'avons pas de laïcs directement dans la communauté.
D'accord. Eh bien, très bien. Je vais donc vous remercier pour donc ce temps que vous nous avez accordé. Voilà, chers auditeurs, dont Paul doit partir avant la fin de l'émission, mais nous ne sommes pas seuls. Nous allons maintenant faire la connaissance d'un séminariste, François Rennes.
Merci beaucoup à Radio Maria et merci aux auditeurs pour votre vie de prière. Nous avons besoin, les prêtres, les diacres, les séminaristes, de votre prière, et je vous en suis très très reconnaissant. Alors maintenant, je suis heureux de vous de donner le micro à notre frère François.
Merci. Alors bonjour François Rennes, donc vous êtes séminariste de la communauté Saint-Martin, donc vous allez répondre tout d'abord à une question personnelle, c'est est-ce que vous pouvez nous donner votre témoignage concernant votre appel et notamment donc votre appel au sacerdoce et pourquoi avoir choisi la communauté Saint-Martin ?
Eh bien oui, bonjour, donc je m'appelle François, j'ai 32 ans. Alors ce serait un peu court de vous raconter mon appel parce qu'évidemment c'est une histoire longue, hein, une vocation. Mais si je devais le faire en quelques minutes, je dirais que pour moi, devenir prêtre a toujours été quelque chose de l'ordre d'une possibilité, quelque chose que j'ai toujours envisagé, mais pas une certitude d'abord. J'ai grandi dans une famille catholique et pratiquante. J'étais servant d'hôtel, mais j'étais un garçon tout à fait comme les autres, avec les mêmes hobbies, les mêmes passe-temps. J'étais même particulièrement turbulent, vous voyez, donc comme quoi le Seigneur appelle n'importe qui. Et c'est vraiment plutôt au moment de l'adolescence, et même quand j'ai commencé à travailler dans la vie professionnelle, que la question de la vocation s'est reposée pour moi, cette question qui m'avait effleuré étant jeune. Et donc c'est lors d'un passage, en fait, à la communauté Saint-Martin, que cet appel s'est réveillé plus fortement. Effectivement, je réfléchissais depuis quelques mois à ce que je voulais, au sens que je voulais donner à ma vie, puisque je sentais dans mon travail quelque chose de qui ne me comblait pas totalement. Voilà, j'aspirais à plus et à plus grand, mais je ne savais pas trop où chercher. Donc je passe ces quelques jours de retraite à la communauté Saint-Martin, et là d'abord je vois des prêtres et des séminaristes heureux, particulièrement heureux. Donc ça m'a beaucoup touché. Et puis surtout, j'ai eu une grande grâce ce jour-là. C'était le 5 avril 2013, donc il y a presque 5 ans. Et j'ai ressenti très profondément ce jour-là, comme je ne l'avais jamais senti avant, et comme je l'ai senti par la suite, mais différemment, un appel intérieur assez indescriptible, vraiment une grâce qui m'a été donnée de goûter, de sentir la miséricorde de Dieu. Voilà, j'ai vu l'espace de quelques minutes combien Dieu me voyait, m'aimait et m'attendait depuis des années, depuis ma naissance en fait. Donc ça a été vraiment une grande grâce pour moi, je dirais, de réconciliation avec Dieu. De paix et de joie intérieure, voilà. Donc ça a été pour le, je dirais, un peu le fracas immédiat de Dieu qui entre dans ma vie, ou qui re-entre dans ma vie. Et puis j'ai quand même voulu donner un peu de réflexion à tout ça, parce que voilà, j'étais quand même quelqu'un de très raisonnable, et je me disais, je vais pas comme ça jouer ma vie sur simplement ce que j'ai pu percevoir en une journée ou en une soirée. Et donc j'ai décidé de faire une retraite plus longue cette fois-ci, de 30 jours, vous savez, selon la tradition des exercices de Saint Ignace, et donc là, accompagné avec un père jésuite, et bien j'ai vu que ce que j'avais expérimenté en fait était très profond, et cette joie et cette paix que j'avais ressentie en fait durait, était là. Et donc c'est vraiment dans le temps long de cette retraite que là je suis passé un petit peu il y a eu un petit peu l'appel au niveau du cœur, et puis ensuite ça a pu pénétrer vraiment toute ma raison, toute ma intelligence et toute ma volonté surtout. Voilà, j'ai pu prendre cette décision alors que j'avais des amitiés, des engagements sociaux, professionnels, faire un peu ce renoncement, hein, et faire ma demande d'entrée au séminaire. Donc voilà, j'avais 27 ans.
Alors justement, on va poursuivre sur cette lancée. Donc un jeune homme comme vous souhaite rejoindre la communauté Saint-Martin, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous a été proposé? Qu'est-ce qui serait proposé à un auditeur qui nous écoute actuellement et qui souhaiterait rejoindre la communauté?
Alors, c'est vrai que donc pour vous parler des séminaristes, mais je parlerai aussi des prêtres par la suite, parce qu'il est également possible de rejoindre la communauté lorsque l'on est déjà prêtre, hein, un prêtre d'un diocèse. C'est un cas qui est plus minoritaire, mais qui existe aussi. Pour les séminaristes, d'abord, comme je vous disais, il est bon d'avoir un peu réfléchi à sa vocation en venant une première fois déjà au séminaire, ne serait-ce que pour voir si ce cadre de vie nous attire, si on peut se projeter en fait dans cet univers. Ça, c'est la première chose. Je dirais qu'il faut au moins passer quelques jours de retraite. Et puis, une vocation dans l'Église, elle est toujours vérifiée, elle est toujours confirmée par d'autres, par des aînés, en l'occurrence par des prêtres. Et donc nous, la pratique dans notre communauté, c'est que à la suite d'un double entretien, d'une double entrevue avec donc Don Paul que vous avez eu au téléphone il y a quelques minutes, et Don Louis Hervé, qui est lui le responsable de la formation, donc c'est-à-dire le supérieur du séminaire. Après deux entretiens, deux rencontres avec ces personnes, et bien, si leur avis concorde, s'ils estiment que le jeune présente les signes d'une vocation, à ce moment-là, la porte est ouverte. Et donc, matériellement, ça se fait par une lettre. On fait ce qu'on appelle une lettre de demande d'entrée, mais qui est très informelle. Hein. Donc, pour moi, c'était je raconte un peu mon histoire que je viens de vous raconter. Et puis, cette lettre marque un petit peu, résume notre volonté libre. Voilà, montre que on n'entre pas sous la pression de qui sais-je, que c'est vraiment un choix qui a été mûri, je dirais, à la fois dans l'histoire et puis dans la prière aussi. Voilà. Donc ça c'est pour un séminariste qui souhaite intégrer la maison de formation. Et puis parmi la centaine de membres prêtres dans notre communauté, alors c'est vrai que la plupart ont été formés au sein de la communauté Saint-Martin, donc c'est-à-dire sont d'anciens séminaristes de Saint-Martin, mais il y en a aussi quelques-uns qui ont rejoint la communauté après avoir été ordonnés et après avoir passé quelques années de ministère dans tel ou tel diocèse ou dans telle communauté. Et donc là, à ce moment-là, la procédure est un petit peu la même, c'est-à-dire que ils font des périodes d'essai, on peut dire, voilà, d'essai dans une de nos paroisses. Et puis c'est surtout le modérateur général, donc Don Paul que vous venez d'entendre, qui prend la décision d'accepter ce nouveau membre au sein de la communauté, qui est, comme il disait très justement, une association de prêtres et de diacres.
Alors, vous avez parlé de retraites. Ces retraites, est-ce qu'elles sont ouvertes à tout le monde? Est-ce que tout le monde a la possibilité de faire une retraite dans un lieu où vous êtes, où la communauté est implantée? Ou bien est-ce que c'est vraiment réservé aux hommes et aux prêtres qui sont en discernement pour rentrer dans la communauté?
Alors, je distinguerai deux choses. Donc tout d'abord notre maison mère, qui est donc aussi la maison de formation à Évron, n'accueille effectivement donc soit que des groupes de jeunes pour des temps de retraite pour jeunes, donc c'est plutôt pour les 16 à 25 ans, 16-30 ans. Voilà, donc ça c'est plusieurs fois dans l'année, en général au moment de la Toussaint, au moment du Carême aussi, et puis au moment de la Pentecôte. Donc voilà, là c'est le temps d'un week-end, on accueille à chaque fois une centaine de jeunes, garçons et filles, quels qu'ils soient. Souvent c'est des jeunes qui veulent un petit peu renouveler leur vie de prière, et donc à ce moment-là ils viennent pour une retraite de 2-3 jours où ils vivent les temps de prière et d'enseignement avec les séminaristes. Et voilà, ça c'est une bonne occasion, on appelle ça des récollections, de repartir plein d'entrain dans sa vie spirituelle. Après il est possible de venir individuellement pour des temps de retraite ou des temps de retraite de discernement, quand c'est plus spécifiquement la question de la vocation qui se pose. Mais donc à ce moment-là, vous le comprendrez, c'est uniquement les hommes, enfin les jeunes hommes plus précisément, étudiants ou jeunes professionnels qui sont accueillis dans notre hôtellerie. Voilà, soit pour 2-3 jours, soit pour une semaine, 10 jours. Là-dessus, il n'y a pas de barrière. Et puis alors, il y a effectivement au sein de la communauté des sanctuaires où là, je dirais, tout un chacun peut venir faire un temps de retraite. Et donc, vous évoquiez tout à l'heure Montligeon, voilà, sanctuaire situé dans l'Orne, en Normandie, qui est spécifiquement consacré à cela, l'accueil des familles, l'accueil des jeunes, l'accueil des personnes aussi en souffrance ou en deuil. Hein, le sanctuaire de Montligeon est particulièrement dédié à la prière pour les âmes du purgatoire, et donc c'est vrai que ça peut être tout à fait opportun, quand on a perdu un membre de sa famille et qu'on doit faire le deuil, de prendre un temps de retraite. Et là, vraiment, tout un chacun peut se rendre dans ce sanctuaire à Montlignon où les chapelains, qui sont des membres de la communauté, sont là pour ça, l'accueil et l'accompagnement de ces personnes. Alors, même s'ils organisent des retraites, comme je vous le disais, en dehors de cette question du deuil, mais également pour des groupes ou des familles. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, ça répond. Et si, par exemple, pour les messes qui sont célébrées à la maison de formation, est-ce que des personnes qui habitent à proximité de la maison de formation ou qui sont de passage dans la région peuvent assister à la messe ?
Alors, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous essayons aussi, dans la mesure du possible, nous vivons à côté de la paroisse, hein, quand même. Évron est aussi une ville, une très charmante ville d'ailleurs, qui a ses propres activités paroissiales. Alors, les prêtres qui desservent Évron sont d'ailleurs des prêtres de la communauté, hein, ce qui facilite les choses. Mais voilà, c'est pour ça que nous, par exemple, nous n'appelons pas les paroissiens à venir à la messe du séminaire. Hein. C'est deux communautés qui se rencontrent en certaines occasions, notamment pour les grandes fêtes, les grandes solennités, dont Paul vous a parlé de la Saint-Martin, mais aussi Noël, Pâques. Voilà, on a vraiment beaucoup de joie à le vivre avec les paroissiens dans la belle basilique Notre-Dame de l'Épine à Évron. Mais nous avons aussi notre propre chapelle, hein, qui est la chapelle du séminaire, et donc qui là est plutôt réservée, en tout cas dédiée à la prière des séminaristes, mais aussi donc des autres qui sont là pour des retraites. Donc c'est tout à fait possible, hein, bien sûr, d'assister à la messe ou aux offices, soit avec la paroisse, donc la plupart du temps dans la basilique à Évron, soit dans la chapelle du séminaire. Et donc là, vous avez le site internet de notre communauté qui précise tous les horaires de messe et d'office. Soit que l'on veuille se joindre à la paroisse, soit si on veut assister à l'office et à la messe avec les séminaristes. Donc une messe est toujours ouverte, bien entendu. Et donc si vous êtes de passage à Évron, n'hésitez pas, nous serons heureux de vous accueillir pour que vous puissiez vous joindre à notre prière.
Alors peut-être une dernière question. Habituellement, on demande aux communautés de quoi elles vivent, soit du fruit de leur travail ou de la providence. Vous, j'imagine que c'est votre travail en paroisse qui soutient donc vos actions. Est-ce que vous êtes aidé par les diocèses ou bien
Alors en fait, c'est une très très bonne question. Alors je pense que Jean-Paul aurait été mieux placé que moi pour y répondre. Mais néanmoins, non, je réponds à votre question. Ce n'est absolument pas les paroisses ni les diocèses qui font vivre la communauté. C'est-à-dire que les paroisses sont vraiment les prêtres de la communauté de Saint-Martin qui sont dans les paroisses au service des diocèses, à la demande des évêques, opèrent comme pour toutes les autres paroisses, c'est-à-dire que tout est reversé pour les finances paroissiales et diocésaines. Non, la communauté, la maison mère et son séminaire ne vivent que de la générosité des fidèles, donc c'est-à-dire des donateurs, en fait, qui veulent soutenir la communauté, qui veulent aussi soutenir la formation des futurs prêtres, puisque comme vous l'a dit Jean-Paul, voilà, nous sommes 120 en formation, ce qui est à la fois une grande grâce et en même temps une lourde responsabilité. Et voilà, la communauté peut vivre grâce à la générosité de ses donateurs. Mais voyez, le fait que l'on soit de droit pontifical, hein, comme vous le disiez, Jean-Paul, comme vous l'expliquez, ne signifie pas que nous sommes, par exemple, financés par le Vatican ou par les diocèses. Il y a vraiment une propre autonomie financière de la communauté. Donc, ce qui souligne l'importance qu'a la communauté de vivre grâce à la générosité de ses donateurs. Voilà. Alors, ça peut se faire en offrant des messes, par exemple. C'est une très belle façon de soutenir une communauté, d'ailleurs, hein, une paroisse ou un diocèse, quel qu'il soit, que de faire célébrer des messes. Et donc, c'est une partie des moyens de subsistance de la communauté, que toutes ces messes qui sont offertes par des donateurs et que voilà, que nous célébrons chaque jour au séminaire aux intentions qui nous ont été confiées.
Eh bien, merci beaucoup, François. Alors, peut-être une dernière question. Où en êtes-vous de votre chemin vers le sacerdoce?
Eh bien, donc je suis dans ma 5e année, ce qui signifie qu'il me reste encore un peu plus d'un an au séminaire, donc la fin de cette année, et puis donc à la fin de l'année suivante, l'année prochaine, donc au terme de la 6e année, si mes supérieurs le souhaitent, je serai ordonné diacre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il me reste encore 14, 15 mois de formation, ce qui peut paraître beaucoup et ce qui est en fait très peu, je me rends compte. Voilà, après l'ordination diaconale, nous quittons le séminaire pour passer un an en paroisse, un an à l'issue duquel nous sommes ordonnés, entre guillemets, la grande ordination, qui est l'ordination sacerdotale, même si en fait tous les engagements sont déjà pris au moment de l'ordination diaconale en ce qui concerne la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Voilà, donc pour moi, il me reste encore voilà, une quinzaine de mois de formation. Et donc, voilà, je sollicite moi aussi la prière de tous vos auditeurs pour que je sois persévérant dans cette formation, et le plus disponible possible à l'Esprit Saint. Voilà, pour devenir un saint prêtre, je le souhaite de tout mon cœur et servir le mieux possible l'Église dans ma communauté.
Eh bien, merci beaucoup François. Merci aussi à ton Paul Préau pour donc ce temps d'émission que vous nous avez accordé. Et puis soyez assurés effectivement de la prière de nos auditeurs et de toute l'équipe de Radio Maria.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au
Merci.
revoir.
Au revoir, à bientôt.